Deux poètes francophones faisaient partie des invités du Festival des écrivains qui s'est tenu à Prague du 17 au 20 avril dernier. Michel Deguy et Werner Lambertsy. Ce dernier, un des plus importants poètes belges de langue française de notre temps, a su marier dans son œuvre l'Occident et l'Orient. Son écriture poétique est donc un amalgame de deux sensibilités dans lesquelles il a su trouver d'ailleurs beaucoup d'aspects communs. Il en a été question, entre autres, dans un entretien que Werner Lambertsy a accordé à Václav Richter.
Rencontre littéraire.
Vous êtes né dans un milieu néerlandophone. Pourquoi avez-vous choisi le français comme la langue de votre poésie, comme l'instrument de votre poésie?
C'est une vraie question, mais c'est un peu long parce qu'il y a de l'histoire derrière. Donc je suis né à Anvers, effectivement, qui est un port où il y a une communauté juive importante, encore toujours à l'heure actuelle. Et aussi où on pratique quatre ou cinq langues dans chaque famille, enfin comme dans tous les grands ports à peu près. Ma mère est d'origine juive, Anvers c'est très courant, et mon père, lui, est un flamand de souche, comme on dit aujourd'hui en France, est un flamand, qui est un jeune orphelin. Son père est mort en 18 de la grippe espagnole, et donc il s'est fait tout seul. Il connaît six langues, il lit beaucoup. Comment il a rencontré ma mère, je ne sais pas. Ils me font, en 41 et en 42, mon père, tout à fait convaincu, s'engage dans la SS. Mon père est mort à 90 ans, il n'a jamais changé d'avis, il a toujours été SS, il a toujours été nazi, et donc on ne s'est pas très bien compris, ni moi ni lui, enfin, on s'est mal entendu. J'arrive à la question que vous posez. Quand je commence à écrire, je dirais que j'écris assez naturellement en néerlandais, c'est plutôt ma langue maternelle, hein, c'est celle de ma grand-mère qui m'a élevé. Mais mon père est en prison, donc je le connais pas. Ma mère, elle s'occupe de sa vie, très compliquée. Et puis je me dis, mais dans quelle langue je vais écrire? Et puis, il se trouve que mon père sort de prison et tâche de me récupérer. Donc il est gentil avec moi. Et il essaye de me convaincre. Et il me montre tout le système, à l'époque, hein, de ce qui était bien le nazisme et le fascisme le plus efficace, je dirais, mais qu'on ne voyait pas encore. Il fallait être initié, il fallait savoir. Donc je vois ce qui se prépare, avec horreur. Hein, parce que ma mère et moi, on n'était pas du tout comme ça. Donc je vois avec horreur ce qui se prépare et je dis, il n'y a qu'une façon de protester contre ça. C'est pas la peine de dénoncer mon père, c'est pas la peine de dénoncer des choses. Il faut simplement dire que le fascisme est en marche, que ça va revenir très vite et très fort, et que c'est dans la langue que ça va se jouer. Donc je vais faire un clash, et je vais choisir une autre langue.
Pourquoi écrivez-vous de la poésie? Quelles sont les sources de votre poésie?
Parce que je suis bon qu'à ça. C'est la réponse de Beckett. Et on lui disait, mais pourquoi vous écrivez? Il dit, il a mis bon qu'à ça. Bon, je me suis jamais posé la question. Après, si. Après, des amis m'ont dit, mais tu écris un roman, ta vie, tout ce que tu veux, enfin, etc. Mais je ne suis pas bon pour ça. Mon expression naturelle, c'est vraiment le poème ou ce que j'appelle moi le poème, je ne sais pas. Est-ce que ce sont des poèmes? Je n'en sais rien. On m'a catalogué comme ça. Et j'ai cette pratique d'écriture qui fait que je n'écris que des livres de poésie.
Qu'est-ce que la poésie au XXIe siècle? Est-ce que c'est la même chose que par exemple au XIXe, où il y a une évolution?
C'est pas la même chose, mais le besoin en est le même. Je veux dire, les idéologies sont mortes, on l'a dit, on a raison. Les grands mouvements sont morts, on l'a dit, on a raison. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que même si les idéologies sont mortes, même si les grandes politiques sont mortes, même si les grands projets sont en train de mourir et qu'on n'a pas bien remplacé, parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pas non plus une grande victoire. Il y a une chose qui est restée, c'est la générosité. Mettre le monde au monde tous les jours, mettre le monde des hommes dans le monde, mettre les hommes dans le monde des hommes tous les jours, ça c'est resté. Ce manque que nous avons, la beauté, ça n'a pas de visage défini. Il n'y a pas de règles. Il y a une beauté antique, grecque, dont on se fait une idée, moyenâgeuse, dont on se fait une idée. Mais ça, c'est après. Il n'y a pas d'image toute faite, absolue de la beauté. La beauté, c'est ce que nous, c'est le regard que nous jetons vers elle, le besoin que nous en ressentons, la nécessité que nous avons, le manque qui nous habite. Et ce manque nous habitera toujours. Ce qui fait fonctionner le monde, c'est le désir. C'est le désir. Or, le désir, par définition, c'est inachevable. C'est l'insatisfaction pour toujours. Cette insatisfaction est le moteur de la vie, est le moteur de la poésie. Et je suis donc perpétuellement un homme en colère, perpétuellement un homme passionné et perpétuellement un homme amoureux.
Pour qui écrivez-vous? Avez-vous à l'esprit un lecteur concret ou c'est une bouteille jetée à la mer comme ça?
Ni l'un ni l'autre. C'est vraiment, c'est une nécessité vitale. Je me sauve la vie à moi-même. S'il m'est arrivé de m'imposer de ne pas écrire pour voir, ben je ne sais plus ce que je fais là. Je ne sais plus ce que je fous sur cette putain de terre. J'adore ma femme, j'adore mes enfants et beaucoup d'autres. Et je ne sais plus pourquoi je suis là. J'ai pas de mission, hein. Je me suis pas donné la mission d'être un poète. Ça n'apporte rien, ça n'est pas un privilège, ce n'est pas un état d'exception. Simplement, je ne suis que ça. Et s'il n'y a pas ça, je comprends plus le monde.
Vous avez beaucoup voyagé dans les pays de l'Orient. Qu'est-ce que cette connaissance de l'Orient vous a donné à vous et à votre poésie?
C'est pas une connaissance, hein. Je ne suis pas un orientaliste, comme on dit, hein. Mais j'ai voyagé, c'est vrai, j'ai vu, j'ai lu surtout beaucoup, hein. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'aller beaucoup, et en Inde, et en Chine, et au Japon, et dans tous ces pays-là, mais aussi en Europe de l'Est à l'époque, et aussi aux États-Unis, etc. Donc j'ai cette chance de pouvoir manipuler toutes sortes de littérature, voir la musique que ça donne ici et là. J'ai été passionné par les littératures qui sont nées sous mes yeux, c'est rare des littératures qui naissent. J'ai eu cette chance. Donc partout, j'ai vu naître des poésies. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Donc ces choses-là m'ont évidemment beaucoup influencé. J'ai dit finalement, ça naît tout le temps. On crie tout le temps que ça va mal, que la poésie disparaît, qu'il n'y a pas de public. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Il n'y a plus de public ici, en France par exemple, mais il y a beaucoup ailleurs. Et puis ça s'inverse, ça change. Donc le besoin est permanent, je n'ai aucune inquiétude. J'allais presque dire, quand ça va mal dans le monde, ça va très bien pour la poésie. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin de fondamentaux. Ils veulent revoir, qu'est-ce que je fous sur cette terre? Pourquoi je suis là? Pourquoi je souffre? Pourquoi je ne souffre pas? Etc. Les grandes questions arrivent. La poésie ne répond pas, mais quand même elle aide. Elle aide terriblement à survivre. Les gens qui rentraient dans les fours crématoires récitaient des poèmes. Les gens qui étaient dans les stalacs écrivaient des opéras, écrivaient des poèmes, écrivaient des oratorios. Il fallait, ça aide à vivre.
Dans quelle mesure l'Orient a influencé aussi votre poésie au niveau de la forme? Je sais que vous utilisez parfois.
Je reviens donc à la question que vous avez bien voulu poser, hein, mais par le biais. C'est-à-dire, l'Orient a été ceci. C'est que j'étais très intéressé parce que je suis... Ma langue maternelle est le flamand, et donc l'allemand, c'est pas très loin, hein, par ce qu'on appelle les mystiques rhénanes. Donc pour moi, celle qui est née dans ma ville, Hadewijk d'Anvers, c'est une magnifique mystique, superbe, le langage, superbe. Mais après ça, il y a tous les mystiques allemands, enfin, Maître Eckhart, mais il y a aussi Angelus Silesius, enfin, on va pas les citer, mais il y en a des dizaines, Ingrid de Suède, etc. Donc j'étais très attiré par cette forme, d'autant plus, comme je suis athée, mais que j'ai fait 12 ans chez les jésuites, j'aimais bien cette sorte de confrontation. Tous ces grands mystiques, l'Église, ça la faisait chier. Il n'y en a pas un qui est devenu saint. Eckhart est passé en procès, certains comme Porrette ont été brûlés, d'autres ont été mis à l'écart. Ça n'intéresse pas le pouvoir religieux, les mystiques, ça ne va pas. Je vais en Orient, la première chose que je trouve, c'est le même discours. Alors les uns diront c'est zen, c'est tout ce qu'on veut être, mais ils parlent du néant comme nos mystiques, ils parlent du vide, ils parlent du manque, ils parlent de la méfiance qu'ils ont de la parole écrite et dite, etc., de la même façon que nos mystiques. On peut pas dire mais on dit quand même, on n'y arrivera pas mais on essaye quand même. Et je trouve une sorte de fraternité d'idées, de sentiments et de besoins entre ces gens d'Orient, dont tout d'un coup je me dis mais... Pourquoi avoir fait comme à l'école les matheux et les littéraires? C'est pas vrai. Je me sens aussi matheux que n'importe qui et pourtant on m'a classé dans les littéraires. Eh bien, je ne suis pas orientaliste, mais je me sens chez moi.